Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison dans ce magazine que vous connaissez, une émission qui essaye, qui empêche de polluer, de réchauffer en rond, de penser en rond, enfin je le disais bien, donc qui essaye, qui fait ce qu'elle peut, avec aujourd'hui Benjamin de la Gâtinais et Guillaume Roux à la technique. Notre nouvelle assistante s'appelle Marion Lelay, mon camarade d'écriture Jean-Christophe Pinaza, et c'est Xavier Pestudia qui réalise l'émission. On va commencer par une petite humeur, bah oui, une humeur de rentrée dédiée à nos petits écoliers, rebaptisés Génération Future et qui avaient cette semaine un moral de retour de vacances avec au menu de la grammaire, l'emploi du temps plein de trous, les haricots de la cantine pas toujours bio, un cartable de 10 kilos qui vous scie les cervicales et la pile de devoirs à faire le soir à la lueur des lampes basse consommation. Dis papa, quand il n'y avait pas Facebook, comment tu faisais pour passer les soirées d'automne ou de fin d'été ? Eh bah pour commencer, attends mon fiston, tu me conjugues au présent de l'indicatif, le refrain de la croissance infinie, je travaille E, tu consommes ES, il gagne ENT, et ensemble nous tondons ONS la laine sur le dos de notre planète, en attendant la retraite à 40 ans pour les Golden Boys, et la prime à la casse à 55 piges pour les autres. Alors évidemment, ce modèle économique dont on aimerait bien que nos politiques aient le courage d'affirmer qu'il n'est pas compatible avec les ressources limitées de la maison aux terres, eh bien, on aimerait bien que ça bouge un tout petit peu, tout ça. Taxe carbone low cost, qui va être encore un grand moment d'amour, hein, on s'en doute bien. Mais en tout cas, nous avons chargé peut-être la barque des écosystèmes et on se dit que c'est pas avec de la monnaie de singe que nos marmots nettoieront l'ardoise du 21e siècle. Sans oublier la fameuse grippe. Eh oui, comment vous avez refusé de succomber aux marchands d'angoisse? Mais je n'y crois pas. Rien qu'en écoutant la radio, la télé, en lisant les journaux, on a l'impression de l'avoir déjà tous chopé la grippe cochonne. Mais oui, mais rassurez-vous, on se lave les mains 10 fois par jour, on ne se fait plus la bise. Et notre ministre l'a dit, tout est under control. Et si nécessaire, on fera même l'école buissonnière. Bref, les amis, vous qui cherchez un antidote à ces nuages qui encombrent un peu l'horizon, on vous propose notre recette maison, nature, environnement, quand même avec un certain recul et un certain sourire, sur les choses complètement folles de ce monde qui nous dépasse un petit peu. La curiosité, on le sait, n'est pas un vilain défaut, donc on restera attentif, vigilant face aux enjeux décisifs des prochains mois, des prochaines années. On ne sera jamais dupe du développement durable.com, du marketing vert, mais on évitera aussi de jeter le bébé et l'eau du bain avec. Et comme le disait Voltaire, si le résultat est le même, eh ben je préfère être du côté du bonheur que du malheur, car c'est meilleur pour la santé. Aussi, on vous emmènera toujours dans des coins préservés pour y respirer de grandes bolées d'air pur, continuer à puiser de la fraîcheur, de l'enthousiasme dans des initiatives de gens qui avancent, qui cherchent, qui expérimentent. On répondra à vos questions, il y aura davantage de rondes de journalistes, de métiers de l'environnement, de paroles d'associations, de plantes qui soient, enfin pas mal de choses. Alors cette semaine, eh ben notre cuisinier, Jean-Marie Pelt, nous présentera ses petits plats de l'été. Colline brûlée à la grecque, réserve naturelle du Caussoul de la plaine de Croix dans son coulis de pétrole brut, et puis salade d'algues vertes des Côtes d'Armor. Et puis, notre parrain, eh ben, cette année, c'est lui.
Nous avons apporté des choses qu'aucune espèce n'a apportées, et que si nous devions disparaître, elles seraient irrémédiablement perdues. En d'autres mots, les humains n'ont pas fait que des bêtises. D'abord l'art, bien sûr, la musique, la peinture, tout ça disparaîtrait. Vous pensez bien que les termites n'épargneraient pas les Stradivarius, oui, si on devait leur abandonner.
Alors nous sommes très fiers et heureux parce que Hubert Reeves est donc le parrain de cette nouvelle saison. Donc il m'a accueilli chez lui à Malicorne dans l'Yonne. Il nous racontera, je dirais, des histoires, son histoire du monde par le grand bout de la lorgnette. Et comme il le dit lui-même, bah, la clé de l'univers, c'est la patience. Patience, entre autres, dans l'azur. Et si ce qui nous manquait pour réussir le siècle, eh bien justement, c'était la patience du jardinier.
On the boat, each row I'm gonna getting more stressed, 'cause you block my way out. With you, I'm in danger, 'cause I'm ready to kill. See, if you don't wanna swallow my anger, you should keep your cool and chill. Just keep your cool and chill. Get out of my way.
Get Out of My Way, c'était Ayo sur France Inter, premier disque choisi par Muriel Peset, notre programmatrice. Au cours de cette émission, à la fin de l'émission, on fera un petit tour sur le bateau Tara qui est parti il y a 2 heures de Lorient pour leur expédition. Et puis un petit hommage à Teddy Goldsmith qui nous a quittés avec un petit son. Alors Jean-Marie Pelt, cet été, donc incendie, malheureusement, en Corse et un peu partout. Donc la taxe carbone, on a bien compris, psychodrame national, objet de division, nous y reviendrons un tout petit peu plus tard quand ce sera calmé. Et puis donc la plaine de la Croix dans les Bouches-du-Rhône qui broie du noir, zone Natura 2000, rupture d'un pipeline entre Fos-sur-Mer et donc Karlsruhe. Et ça a imprégné le sol sur 2 hectares et 15 cm. Et c'est un lieu que vous connaissez, Jean-Marie.
Oui, dans une région très spécifique de la France, on ne retrouve ce milieu que là. Quand j'ai étudié la géographie au lycée, on étudiait les ressources de chaque région de la France. Et on évoquait la Croix et on disait, là, il n'y a pas de ressources. C'est une sorte de presque désert, disait le professeur de géographie. Il y a juste un tout petit peu de foin et quelques moutons. Et alors, on peut s'en rendre compte quand on a l'idée saugrenue d'aller de Lyon à Marseille par l'ancienne voie ferrée du PLM, du Paris-Lyon-Marseille. De Arles jusqu'à Marseille, par Miramas, on traverse la Croix. Oui. Et il n'y a rien. C'est vraiment une région qui est subdésertique, c'est vrai, qui est unique en son genre, avec des animaux, des végétaux spécifiques de cette région
endémique.
Aussi. Endémique, oui. Donc c'est une région intéressante. Et elle n'est pas préparée à recevoir du pétrole. Quoi.
On va rester un peu dans le domaine maritime, avec les algues vertes.
C'est les marées vertes.
Oui. Après la noire.
Oui, alors vous avez vu que M. Fillion a fait sa rentrée en se déplaçant dans les Côtes d'Armor à Saint-Michel en Grève, où il a été constaté les dégâts que font les marées vertes. Oui. C'est vrai que c'est très impressionnant de voir sur vraiment des kilomètres ces algues vertes qui flottent en surface. On a l'impression qu'on a une espèce de soupe épaisse, un potage. La mer est comme un potage. Ça pue effroyablement, mais c'est un problème écologique très sérieux. Et on le connaît depuis très longtemps. Ce qui se passe, c'est parfaitement clair. C'est qu'on a créé dans les années 60 des exploitations agricoles de très grande taille en élevage de porcs. C'est que le lisier de ces porcs, parce que les porcs, ils sont sur caillebotis, ils ne sont pas sur de la paille, donc ils ne fabriquent pas de fumier, ils fabriquent du lisier. Et le lisier part dans les rivières, part dans la mer. On utilise aussi...
C'est qu'on essaie de l'étendre, mais il n'y a pas assez de surface, de toute façon.
Non, non, il part quand même. Et puis, il y a les nitrates qu'on utilise comme engrais, qui partent dans la mer aussi, et vous arrivez à avoir des taux dans la mer de 30 à 40 mg par litre. Mmh. Et donc, vous avez donné aux algues un engrais. Et ça marche admirablement bien, les algues prolifèrent. C'est surtout les algues vertes, c'est pour ça que c'est une marée dite marée verte. C'est les ulves qu'on appelle aussi les laitues de mer. C'est ces espèces de feuilles qu'on voit quand on prend ces algues en main. Pas consommables, pas utilisables jusqu'à présent, mais peut-être qu'elles pourront l'être davantage un jour. Et puis alors, il y a eu un incident. Alors, il y a eu un incident. L'année dernière, il y a eu deux chiens qui sont morts en furetant dans ces tas d'algues qui sont déposées sur le littoral et qui, lorsqu'elles sont déposées, se dessèchent. C'est des grandes marées qui les met sur le bord, elles se dessèchent, ça fait une croûte en surface. Et en dessous, c'est de la pourriture.
Et ça sent l'œuf pourri, d'ailleurs.
Ça sent très fort l'œuf pourri.
C'est du soufre.
Hein, c'est de l'hydrogène sulfuré. Ouais. Donc, on a pris conscience que ces produits sont dangereux. Alors, il y a un cheval qui est mort. Oui. Et son cavalier est lui aussi tombé dans les pommes. Donc il y a un danger. Bon, ce qu'il faudrait essayer de faire, c'est de limiter la formation de ces algues. Et on n'a qu'un seul moyen, c'est de limiter les émissions de nitrates et de lisier.
Et donc là, on touche évidemment à tout un fonctionnement agricole. Parce qu'en fait, la Bretagne a aussi s'est développée par ses élevages aussi intensifs. Ça a été des choix, hein, d'ailleurs.
Oui, mais alors là... La grande difficulté, c'est qu'on a déjà eu des plans de nitrate à répétition et qui n'ont jamais bien marché et qu'on ne sait pas très très bien comment s'y prendre, sinon à ne plus aller dans cette direction-là pour l'agriculture dans le futur. Mais on est devant une situation de fait. Il faut donner ici un coup de chapeau à notre ami Jean-Claude Pierre qui a créé l'association Eaux et Rivières de Bretagne il y a une quarantaine d'années, absolument. Je pense que si Eaux et Rivières de Bretagne n'avaient pas existé, toutes les rivières en Bretagne seraient complètement polluées et seraient dans le même état que la baie de Saint-Brieuc et la baie de Saint-Michel-en-Grève. Oui. Je pense qu'on aurait bousillé complètement les rivières dans cette région qui est si belle. Donc, on va essayer de diminuer les émissions. L'État s'est engagé par la voix du Premier ministre à payer l'élimination, l'enlèvement des algues.
Mais là, on va faire du curatif, ce n'est pas du préventif. On va payer l'enlèvement, très bien.
Tout à fait, c'est en effet du curatif. Et puis alors, la question qui est intéressante, c'est qu'est-ce qu'on fait des algues qu'on a mis en tas? Alors, il faudrait pouvoir les utiliser en tant que biomasse.
Mais la chimie verte travaille dessus. Hein,
on travaille beaucoup dessus. On peut imaginer de faire du gaz en les faisant fermenter. Oui. On peut imaginer de faire des objets. On fait des pots, d'ailleurs. Il y a une petite industrie qui fait des pots, comme les pots de fleurs, avec des algues compressées. Il y a une ébullition sur ce thème qui est tout à fait justifiée. Alors là, on voit très bien comment des pratiques agricoles qui, à un moment donné, sont lancées et qui prennent de l'extension... ont tout d'un coup, plus tard, des retombées négatives. C'est ce qu'on a déjà dit plusieurs fois dans nos émissions.
Mais quand même, ce que rappelle Jean-Yves Piriou, qui est donc chercheur en environnement donc à l'IFREMER, qui travaille de suppléments, c'est que plus personne ne nie quand même la responsabilité des nitrates. C'était tabou, je veux dire, que pendant très longtemps.
Ça, c'est une question écologique qui est claire. C'est très différent de ce qu'on a dit sur les polluants, les micropolluants, où il est très difficile de dire tel micropolluant a déclenché chez monsieur un tel un cancer. Oui. On ne peut pas le dire, ça. Là, c'est tout à fait clair.
L'INRA a démontré que 85% de ces nitrates sont d'origine agricole.
Oui, tout à fait. Oui, non, mais c'est absolument clair. Donc, il faut essayer de baisser les quantités d'engrais utilisés. Il faut aller vers une agriculture qui soit un peu plus proche de la nature.
Et sans stigmatiser non plus systématiquement les éleveurs, d'abord, qui ont ras-le-bol et qui gagnent pour leur vie non plus forcément bien comme il faut. Enfin, voilà. Donc...
Non, mais je crois qu'il faut qu'on arrive à des démocraties de consensus. Il ne faut pas qu'on désigne toujours les méchants. Oui. Bon, les méchants sont ceux qui veulent mal faire et qui veulent éventuellement s'enrichir sur le dos des autres, ce qui n'est pas honorable. Mais l'immense majorité des gens sont de bonne foi. Et on découvre qu'il y a des pratiques qui ont des retombées négatives. On le découvre plus tard. Et là, il faut prendre à bras-le-corps le problème, et il faut le résoudre ensemble.
Cher Jean-Marie, pardonnez-moi, je vous mets un petit peu à la porte.
Hein, oui, c'est ça, merci. Merci, vous êtes charmant.
Voilà. Non, mais vous
pour
savez
la pour... première émission.
Mais vous savez pourquoi vous savez
non,
pourquoi...
non, non, non.
Mais si, mais je vous ai dit, derrière nous, là, qui vous allez entendre.
Hein. Ah, il y a Hubert Reeves.
Mais voilà.
Le cher Hubert.
Ben oui,
vous sûr. Allez à Malicorne.
Oui, c'est ça.
Dans sa maison.
Par la voie des ondes.
Oui, très bien.
Nous allons partir dans Lyon.
Très bien, j'aime beaucoup Hubert.
Bon, allez, merci Jean-Marie.
Hubert, c'est un prophète de l'écologie. Il a aussi une physique d'un prophète.
Oui.
Moi, on m'a dit, pendant ses vacances, que j'avais le physique d'un bébé. J'ai dit, oui, mais je suis un vieux bébé.
Ah oui, ça... je ne vais pas dire je confirme, parce que ce serait méchant. À la semaine prochaine, Jean-Marie.
À bientôt, au revoir Denis, au revoir à tous.
Je suis le sang sur mes jeans. J'étais dans les meilleurs à l'école vaudou des sorciers noirs de New Orleans. Je suis né dans le bayou. Je suis né dans le bayou. Celui qui sèche dans la cour, j'en mange un peu, je danse autour, on dit que c'est bon pour l'amour. Je suis né dans le bayou. En parlant de ça, je suis pas un phénomène, mais je me débrouille pour plaire. J'ai mon beau costard pour les fins de semaine, quand Peggy met sa robe légère. J'suis né dans le bayou. J'suis né dans le bayou. Et je danse sur la terre que j'aime, celle qui se gagne sur la boue. Et je marche dans la belle lumière verte du bayou. Et je danse sur la terre que j'aime, celle qui se gagne sur la boue. Et j'avance, j'avance dans la belle lumière verte du bayou. J'suis né dans un bar au bord d'un marécage par une nuit de lune fine. J'ai appris à marcher dans le fond d'une barque entre les crosse des carabines. Je suis né dans le bayou. Je suis né dans le bayou.
Originaire du Lot-et-Garonne, vous l'avez reconnu, mais né dans le bayou malgré tout. Bien sûr, c'était Francis Cabrel. On parlait de la Bretagne, on parlait des eaux, des algues. Nous fêterons les 40 ans de Eaux et Rivières de Bretagne, qui est une formidable association. Ce sera le 10 octobre sur dans CO2, mon amour. On va changer de registre, mais oui, on va aller en Bourgogne, on va aller dans Lyon. Ah bah écoutez, nous avons un peu de pluie. Cher Hubert Reeves, merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui parce que vous êtes le parrain de cette nouvelle saison de CO2 Mon Amour et nous sommes chez vous dans le département de Lyon, Et donc vous avez eu un coup de cœur pour ce lieu, qui a un nom d'ailleurs absolument charmant. Hein.
Le village s'appelle Malicorne, ouais. Et la ferme d'Hautefeuille, qui est la ferme d'un château, un château qui a été bâti vers le 15e siècle, qui est maintenant démoli et qui est occupé par une colonie de vacances.
D'accord.
Et on est en train de préparer pour eux un espace pédagogique. Hier, je suis allé, on leur apporte des livres de sciences, des télescopes. Hier, je leur ai fait un petit spectacle en leur montrant les photos du système solaire. C'est des tout petits, hein? Ils ont entre 7 et 12 ans. Ben, ils étaient passionnés, ils n'arrêtaient plus de poser des questions.
Oui, mais souvenez-vous quand votre maman disait « Avez-vous vu les étoiles ?» mm-hmm. C'était un peu le signal de départ dans la maison de Bellevue et vous aviez à peu près 7-8 ans.
Mais vous avez une bonne mémoire. Bravo, bravo.
Bellevue, c'était la maison, bien sûr, au Québec, d'Hubert Reeves, alors donc dans ce département de Yonne. Alors, vous avez à la fois des mornes plaines céréalières, il faut le dire, et puis aussi, vous avez des coins mais merveilleux. Vous avez Vézelay, vous avez le Morvan, et puis vous avez la Puisaye. Alors, la Puisaye, c'est un pays de forêts, d'étangs, d'histoires naturelles qui sont chères à Colette. Et c'est là qu'Hubert Reeves, donc depuis pas mal de temps, astrophysicien que nous connaissons, écologiste aujourd'hui, et formidable raconteur du monde, lui aussi, des plantes et des arbres, parce qu'il aime bien les voir grandir comme des enfants et les accompagner, ces arbres, ben c'est là donc qu'il m'a accueilli. La glycine était bleue, l'air de l'été était tiède, la lumière était vert doré, pas comme dans le bayou, mais qui a sa plongée quand même doucement des rayons obliques vers le sol. Et puis au programme, en fait, rien n'était prévu. Si, si, si. Bien-être, humanisme, écologie, univers, avenir, le tout concentré en 20 minutes à l'antenne, c'est vous dire si nous sommes optimistes. Vous avez votre petit étang.
Il y a l'étang, oui. On va aller voir un endroit qui s'appelle le banc du temps qui passe. C'est un banc où on s'assoit pour capturer le temps qui passe.
C'est bien.
Simplement rien faire et essayer de se mettre dans le temps. Là, ça va être un peu mouillé pour s'asseoir, oui. Mais je vais souvent travailler ici.
Ah oui. Et donc là, en fait, vous faites votre petit affût personnel.
Voilà, vous voyez, on voit les poissons,
les remous.
Tout ça, c'est moi qui ai planté. Cet étang était à peu près à sec quand on est arrivé. Oui. J'ai planté des nénuphars, j'ai planté les roseaux, les glycines.
Et vous avez toujours eu besoin de toucher la terre meuble, de retourner, de planter, de bouturer, de marcoter
J'ai besoin de ça, j'aime beaucoup cette idée. Planter des arbres, un rêve que j'avais et que j'ai pu réaliser.
Alors venez, parce qu'on va aller les voir. Vous allez nous présenter ces arbres-là. Hop. Ah, où il est caché. Allons, ça y est, vous ressortez derrière les bambous. C'est très bien.
J'avais cette idée de planter des arbres qui peuvent vivre plus de 1000 ans. Parce que je me dis, si on ne les plante pas maintenant, est-ce qu'il y en aura d'un 1000 ans ?
Tenez, vous avez un merveilleux parapluie, parce que pour tout vous dire...
Oui, c'est pas mal, voilà. Ça y est, extraordinaire.
Bon, ben dites donc. Alors, en plus, ça, c'est complètement un parapluie pour vous, parce qu'à l'intérieur du parapluie, nous avons la voûte céleste.
Oui, ça sert, quand le ciel est clair, on s'en sert pour regarder les étoiles. Et quand il pleut, ben ça sert de parapluie.
Bah oui. Hop là. Alors, on passe sous le cerisier. Lui, il va peut-être pas vivre 1000 ans.
Vous n'avez pas une belle cerise?
Oh, mais si.
Elles sont excellentes.
Allez, hop. Une petite cerise. Pour la route.
On appelle ça le dessert snob. On amène nos amis, on dit le dessert, c'est sous le cerisier.
C'est très bien. C'est très chic.
Alors regardez ici, vous arrivez à ce qu'appelle l'allée des géants. Alors voilà le cèdre du Liban. Et vous voyez avec les cônes femelles, il vient d'atteindre sa puberté. Il y a peu de temps. Il a 30 ans. Je l'ai planté, il mesurait quelques centimètres. Et j'en ai planté 7, comme ça.
Cette relation avec les arbres, ça vous permet de relativiser certaines choses, de se placer dans l'univers autrement ou
C'est pas mental. J'aime beaucoup la compagnie des arbres. Je trouve qu'il y a un rapport entre l'être humain et l'arbre.
Oui.
L'arbre, il est là, mais il n'interfère pas avec vous. Si vous êtes avec une autre personne, vous êtes obligé d'être d'en tenir compte de sa présence. Vous ne pouvez pas rester dans votre rêverie, dans vos réflexions. L'arbre, il y a quelque chose qui passe, je ne sais pas quoi, je ne me le demande pas parce que je ne pense pas que je pourrais le trouver, mais j'aime. C'est un rapport affectif.
On a tous besoin un petit peu de repères dans un monde, on va dire, qui est un peu déboussolé. Où en sommes-nous et qu'est-ce que l'on peut mettre en perspective comme grande évolution qui ont existé?
Ça, c'est un aspect intéressant des découvertes scientifiques. C'est qu'il arrive souvent que des découvertes qui sont faites par des techniques scientifiques normales, rien de spécial, aboutissent à des résultats qui vont bien au-delà de la science.
Oui.
Et un exemple, évidemment, c'est Galilée. Quand Galilée découvre que la Terre n'est pas le centre du monde, ça va avoir un impact sur toute la pensée humaine. Mm-hmm. C'est ce que Freud appelle le choc astronomique. Et un autre choc récent, c'est ce qu'on peut appeler le choc archéologique. Là aussi, c'est la même chose. Ce sont des chercheurs, des géologues, des archéologues qui étudient le passé de l'être humain. Comment se comportaient nos ancêtres? Eh bien, on n'est pas très fiers. On découvre que nos ancêtres, notre espèce, Homo sapiens, a été une espèce particulièrement destructrice et saccageuse sur cette planète. Depuis 100 000 ans que nous sommes là, nous avons à notre actif une élimination massive de milliers d'espèces animales et végétales.
Et en même temps, il fallait aussi qu'ils puissent lutter, parce que
voilà, c'est ça,
survit.
On ne peut pas le blâmer.
Oui.
Comment les êtres humains, qui sont une chair fragile, ont-ils pu survivre? Ils ont pu survivre parce qu'ils ont un avantage adaptatif majeur, c'est l'intelligence. Et c'est ça qui leur permet de faire des pièges, de faire des armes, etc. Résultat, c'est cette destruction, cette élimination de quantité d'espèces vivantes. Encore une fois, on ne peut pas les blâmer.
Est-ce qu'on peut dire aussi qu'il y a un choc écologique? Parce que l'homme vient de se rendre compte tout récemment que nous étions sur un monde qui était fini. Alors l'être humain n'est pas forcément fini, mais le monde en tout cas l'est.
Oui, c'est le choc écologique, il est dans la foulée du choc archéologique.
Voilà.
Notre influence sur la planète est négative et surtout depuis une cinquantaine d'années. C'est-à-dire depuis que nous avons une technologie tellement puissante que nous sommes capables de couper plus d'arbres qu'on en coupait en des siècles et qu'on a détruit la moitié de la forêt, qu'on pêche plus de poissons qui s'en reproduisent. Je pense qu'il faut développer, augmenter notre capacité de capturer l'énergie solaire. Mmh. L'énergie solaire, on la capture déjà avec les éoliennes, mais pour l'instant, ce n'est pas encore suffisant. C'est dans l'océan qu'il y en a le plus. Aujourd'hui, le soleil nous envoie 10 000 fois plus d'énergie que ce que nous utilisons. Donc, il nous faut récupérer un 10 000e de ce que le soleil nous envoie.
Hubert Reeves, on fait le constat des gâchis de ce qu'a fait l'homme, qui a transformé la Terre en un immense supermarché, qui ne se donne pas de limites. Bien. Mais à côté de ça, on est aussi quand même quelque part des animaux absolument prodigieux. Et on a des choses que d'autres éléments vivants n'ont pas.
Oui, nous avons apporté des choses qu'aucune espèce n'a apportées. Et que si nous devions disparaître, elles seraient irrémédiablement perdues. En d'autres mots, les humains n'ont pas fait que des bêtises. Ils ont fait aussi des choses très valables, et j'aime en citer trois en particulier. D'abord l'art, bien sûr, la musique, la peinture. Tout ça disparaîtrait. Vous pensez bien que les termites n'épargneraient pas les Stradivarius si on devait leur abandonner. Et le troisième, qui me paraît peut-être le plus important, c'est la compassion. C'est-à-dire la capacité de sentir la souffrance de l'autre et de s'en occuper activement.
C'est un gamin qui est handicapé, on s'en occupe, tandis que, on va dire, un petit oisillon qui n'est pas en forme, il sera éjecté du nid.
Il sera éjecté, les parents ne le nourriront pas. Les parents oiseaux ne nourrissent pas les oisillons malades.
Il y a toujours eu, on le sait, des extinctions, des disparitions d'espèces et d'autres apparitions. Vous avez d'ailleurs effectivement, avec un certain succès, mis en avant la notion de sixième extinction des espèces, dont nous faisons partie, hein, vous le dites vous-même. On est sur une paillasse de laboratoire et on est dans l'éprouvette, quoi.
Oui, on s'aperçoit que dans le passé, il y a eu de grandes extinctions. On en compte cinq majeures, c'est un peu arbitraire, mais cinq. Et on se dit aujourd'hui, nous sommes dans une extinction majeure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que selon les meilleurs spécialistes, nous éliminons de 100 à 1000 fois plus d'espèces chaque année que, par exemple, avant 1900. C'est une véritable extinction et on prévoit qu'à la fin du siècle, on aura probablement éliminé 50% des espèces. C'est comparable aux plus grandes extinctions du passé. Et c'est ça qu'il faut arrêter. Il faut se rendre compte que nous sommes potentiellement victimes et qu'il faut tout faire pour que l'humanité ne soit pas la victime.
D'ailleurs, vous dites très simplement la différence et la complémentarité entre l'astronomie et l'écologie. C'est-à-dire que l'astronomie nous dit d'où venons-nous et comment nous sommes venus ici, comment on est arrivé en fait ici sur Terre. Et l'écologie, elle fait prendre conscience, on va dire, des menaces et surtout, elle nous dit comment rester sur Terre.
Voilà, c'est ça. L'astronomie, la biologie, c'est le passé. Comment nous en sommes venus à être ici. L'écologie, c'est le futur. Comment prendre compte du fait que notre futur est sombre et qu'il faut réagir très vite si on ne veut pas qu'il s'assombrisse encore plus et que, les conditions de vie sur la Terre deviennent invivables, mais pas à des échelles de temps astronomiques. Là, on ne parle pas de millions d'années, on parle de décennies.
La maison près de la fontaine, couverte de vignes vierges et de toiles d'araignées. Sentez la confiture et le désordre et l'obscurité. L'automne, l'enfance, l'éternité. Autour il y avait le silence, les guêpes et les nids des oiseaux. On allait à la pêche aux écrevisses avec monsieur. Se baigner tout nu, tout noir, avec les petites filles et les canards.
Alors, Alors celle-là, Ferrer l'avait peut-être pas écrite dans le Lot, mais c'est vrai que là où il était, c'était un coin qui est superbe. Hein. C'est le Quercy blanc, donc ce pays à la fois calcaire avec une lumière incroyable. J'ai tourné un sujet cet été, donc je vous le passerai dans quelques temps. Et là, on va revenir donc dans ce département de Lyon, chez Hubert Reeves, qui a toujours été en fait très imprégné par deux fleuves. D'abord, bien sûr, celui de son enfance, le Saint-Laurent, qui est plus qu'un fleuve, parce que en fait, il imprègne l'identité culturelle évidemment des Québécois. En inspirant des sentiments de solennité et d'appartenance. Et puis là, alors plus modestement, Lyon, enfin bien que Lyon en furie, vous savez, avec les torrents du Morvan, ça fait quand même de sacrés dégâts et de belles crues. Voilà, donc nous retournons dans le jardin de Malicorne, dans le refuge d'Hubert Reeves. Comment vous avez glissé, je sais que ça s'est fait naturellement, mais entre l'astronomie et cet engagement environnemental.
Alors ça a commencé quand je travaillais à la NASA dans les années 70-80. Il y avait un personnage qui s'appelait James Hansen.
Oui.
James Hansen qui était un de nos collègues et qui un jour en discutant dit ce gaz carbonique qu'on émet parce qu'on était... Les voitures se développaient, le nombre de voitures, Ford, Chrysler, General Motors, c'était vraiment la gloire. Mais il s'est dit, ce gaz carbonique, c'est quand même un peu inquiétant. Est-ce que ça ne va pas produire quelque chose comme un effet de serre? Là, on est dans les années 70. Personne ne parlait de l'effet de serre. Et il fait des calculs et il se dit, mais oui, notre quantité d'émissions de gaz carbonique est tout à fait susceptible de produire, de réchauffer la planète, parce que le gaz carbonique retient la chaleur. Donc ça, c'est depuis cette période, on peut maintenant, je trouve qu'il serait criminellement irresponsable d'ignorer cela.
Alors là, on est en train de longer... Donc, j'ai presque dit le mur d'enceinte. Non, c'est pas un mur d'enceinte, mais si.
C'est le mur de la ferme. Et regardez ça, on a découvert en arrivant ici. C'était complètement disparu sous le haut de feuille.
Ah, oui.
C'est une citerne.
Oui.
Et dans cette citerne, on mettait de l'ortie. Et on faisait du purin d'ortie, qui est un excellent engrais pour les arbres fruitiers.
Engrais dit naturel.
Ça a été interdit à un moment donné.
Oui.
Vous savez, il y a eu cette histoire un peu
vrai.
Pénible. Pourquoi est-ce qu'on interdisait? Ça paraissait...
Pour vendre des produits chimiques, cher Hubert?
On soupçonne que ce soit le cas, oui.
Vous êtes président de la Ligue pour la préservation de la faune sauvage et de la défense des non-chasseurs.
Le but, c'est de dire on met la pression sur ceux qui ont la possibilité de décider, c'est-à-dire ceux qui sont au pouvoir. Nous sommes continués en contact avec Borloo, maintenant avec Mme Joanneau, pour leur rappeler... ce qu'il faut faire.
Piqûre de rappel, quoi, tout le
et
temps.
Et puis aussi pour essayer de leur donner des rapports scientifiques valables.
Oui.
Où sont les vrais problèmes? Quels sont les oiseaux qui sont en difficulté? Nous, on a dit on va se spécialiser dans la biodiversité, c'est-à-dire les vers de terre qui disparaissent. Et les vers de terre, si les vers de terre disparaissent, le sol n'est plus oxygéné. Si le sol n'est plus oxygéné, c'est catastrophique pour l'agriculture. Quand on explore la situation, on s'aperçoit qu'une des façons d'aider à sauver la planète, c'est d'avoir l'œil sur qui prête de l'argent pour faire des projets destructeurs.
Oui.
Et ça, c'est une chose dont on doit prendre conscience de plus en plus. Et ça se fait. Je sais qu'au Québec, par exemple, j'ai rencontré des religieuses. Les religieuses, comme ici, sont très riches. Pourquoi? Parce qu'ils avaient des grands domaines dans la ville.
Ils avaient du foncier, quoi.
Oui, et puis du jour au lendemain, on évalue, ça vaut très cher. Donc, elles prêtent, ce qui est très bien. Mais elles demandent des éco-certifications sérieuses. Elles ne prêtent pas d'argent à des gens qui ont des projets le moindrement litigieux.
C'est ça.
Et ça, je trouve ça une évolution positive. La situation présente n'est pas durable.
Oui.
Et je pense que même les économistes les plus endurcis, s'ils jettent un coup d'œil sur les chiffres...
Ils sont un peu calmés, là, ça y est.
Ils sont un peu calmés. Oui. On voit, et donc, ça n'est pas durable et qu'il faut faire quelque chose. que si on n'a pas l'écologie, on pensait qu'on avait le choix, l'écologie, l'économie, c'est l'écologie, c'est un truc de riche.
Les clés se rendent que c'est le socle, en fait,
sur lequel... socle, et que si on n'a pas l'écologie, l'économie s'effondre. Et là, je pense que les choses à faire, en particulier, c'est ce que vous faites, c'est-à-dire mettre les gens au courant. Et moi, je vois bien, quand je faisais des conférences dans les lycées, il y a 10 ans, j'avais quelques étudiants polis qui venaient m'écouter. Oui. Maintenant, c'est la cohue. Ils ont fait des posters, ils ont mis la pression sur le directeur du lycée pour avoir des cantines bio, pour avoir du recyclage et tout ça. Il y a vraiment un mouvement d'une très grande ampleur. Alors, on va aller ici, parce qu'on arrive dans l'arboretum, justement.
Voilà.
Et là, je vais vous présenter un séquoia
que
j'ai semé.
Bonjour,
avec
séquoia.
Avec une graine qui n'est pas plus grosse qu'un grain de riz. Oui. Et cet arbre peut vivre 3000 ans. Il y en a 3.
Je lève la tête, au-delà des gouttes que l'on se prend sur la figure, mais je ne vois pas le bout, vous voyez. Donc il, est... il s'arrête quand même, votre séquoia.
Mais on va de la cour, on le verra mieux. On le verra mieux de la cour. Il est possible que nous soyons seuls, il est possible qu'il y ait des millions de planètes habitées comme notre Terre. Là, on en est réduit à des opinions, parce que nous n'avons pas de faits. Et moi, mon opinion, mais c'est purement une opinion gratuite que je ne saurais pas défendre, parce que ce n'est pas l'argument, c'est de penser qu'il y en a beaucoup. Moi, j'ai comme cette intuition que des endroits comme Hautefeuille, que des planètes qui rencontrent des difficultés parce que l'impact d'une espèce intelligente est devenu majeur et met en péril l'avenir, j'ai l'intuition qu'il y en a beaucoup.
Ah, Hubert, on a fait le tour pratiquement de votre propriété. On est sous un arbre absolument magnifique, c'est un sycomore.
Un sycomore, et c'est un arbre où on a décidé avec ma femme de ne pas couper de branches de ce sycomore comme de ce marronnier que vous allez voir ici.
Oui.
Et l'idée, c'est de dire comment évolue un arbre quand on n'a aucune compétition pour la lumière et quand on ne coupe aucune branche. Et tu vois, il prend cette belle forme de demi-sphère, et quand il est en fleurs, c'est magnifique. C'est un gigantesque bouquet de fleurs.
On sait que la nature, elle est ni méchante ni gentille. Hein. Ça, on balaye tout de suite ce genre d'idée. Qu'est-ce qu'elle vous apprend ?
Oui, c'est vrai que dans la nature est à la fois, c'est une belle phrase de Jung qui dit, le monde dans lequel nous en entrons est à la fois sublime et cruel. Et c'est vrai, on est obligé de vivre dans un monde où il y a des choses sublimes et des choses cruelles et laides. Si on essaie de se faire une idée, de dire tout est beau, c'est faux. Non. Si on se dit tout est laid, c'est faux aussi. C'est quelque chose dans lequel nous vivons et nous avons ce bonheur de vivre, mais ce bonheur de vivre implique de vivre dans une incompréhension de ce qui se passe. Nous ne savons pas si la vie a un sens, mais on découvre qu'il faut vivre, il nous faut prendre des décisions, même en ne sachant pas les choses qui seraient importantes de savoir pour les prendre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment vivre notre vie? Et en particulier, une des choses qu'on peut vouloir faire de notre vie, c'est d'essayer de sauver la planète. Il n'y a aucun doute que c'est un idéal positif. Les gens me demandent si je suis optimiste ou pessimiste, et je répète la phrase de Jean Monnet qui disait « L'important, ce n'est pas d'être pessimiste ou optimiste, c'est d'être déterminé. »
Volontariste.
Déterminé, volontariste, dire « On fait ce qu'on pense qu'il faut faire, peut-être ça ne donnera rien. Personne ne connaît l'avenir. » Mais peut-être ça donnera quelque chose.
Hubert Reeves, un grand merci de m'avoir accueilli aujourd'hui chez vous, donc à Malicorne. C'est bien parce que là, en fait, on se quitte et le soleil se lève.
On a l'impression, avec un peu d'espoir, on va peut-être avoir du soleil cet après-midi.
Ouais.
C'est un peu couvert, mais moi, j'aime bien la pluie. C'est une chose. J'aime me promener dans la forêt avec un parapluie.
Voilà.
Je trouve ça très, très agréable. Et puis, merci de cette, de votre venue. Je suis content d'avoir pu bavarder comme ça. Et à bientôt, Denis.
Et si vous souhaitez poursuivre le voyage avec Hubéry, vous n'étiez pas là pour ça, mais vous avez la réédition de Poussière d'étoiles au seuil. C'est à lui que l'on doit évidemment ce terme aussi de Poussière d'étoiles. Je n'aurai pas le temps, il raconte vraiment très très bien toute sa vie. Mal de terre aussi, sur lequel donc, il va y avoir une suite. Et puis les sites de l'association, hein, la Ligue pour la préservation de la faune sauvage et la défense des non-chasseurs. Le site Biodiversité 2012, vous allez voir, vous avez beaucoup d'informations. Et puis un grand merci aussi à Camille, l'épouse d'Hubert Reeves.
Hey oh, je te rappelle que ça fait 3 fois que je paye le téléphone et l'électricité.
C'est moi qui ramène la bouffe.
Ah oui, tout ce que tu ramènes, tu le piques.
Et alors?
Du gruyère, des steaks surgelés, des sardines en boîte, du poisson pané. On bouffe que des trucs carrés. Dis donc, je te parle de vraie nourriture, moi. Tu comprends? Une laitue, par exemple. Pique une laitue la prochaine fois.
CO2, mon amour, Denis Chessieu. Ultimate star, you picked me up from above. Your unconditional love takes me to paradise. I belong to you, and you belong to me too. You make my life complete.
Toujours très bien, ça c'était Lenny Kravitz sur France Inter. Alors notre page actualité, 2 actualités, l'empaillage généralisé autour de la contribution climat-énergie. Ça ne vous dit rien, son petit nom c'est la taxe carbone. Ah là tout de suite on connaît mieux. Nos petits-enfants à naître d'ailleurs ont un avis sur la question, mais on n'a pas fait de micro-trottoir encore avec eux. Et puis l'autre actualité, donc ça on y reviendra, hein, on y reviendra. Là on laisse faire parce que c'est quand même un bon maelstrom là. Et puis Tara, alors Tara, donc vous en avez entendu parler bien sûr, c'est ce demain qui va sonder les océans, tour du monde des planctons et des coraux en relation donc directe avec le réchauffement climatique. Et nous allons joindre le directeur scientifique de l'expédition, Eric Carsanti, chercheur au laboratoire européen de biologie moléculaire d'Heidelberg au CNRS. Et donc le bateau est parti depuis à peu près 2 heures, on va dire, de l'Orient. Qu'est-ce que vous allez faire pendant 3 ans, Eric Carsanti?
Eh ben écoutez, on va pêcher.
Oui.
On va pêcher beaucoup de petites bêtes du plancton. Hein, donc des petites bêtes qui vont des virus aux larves de poissons. Mmh. Voilà, on va faire ça. Et puis on va aussi étudier les coraux.
Éric Carsanti, pourquoi ce plancton et ces coraux sont fondamentaux dans l'histoire de la Terre?
En fait, si vous voulez, le plancton joue un rôle fondamental dans les grands équilibres climatiques, en particulier dans la production d'oxygène et le piégeage du CO2. Mmh. Et les coraux sont une source de biodiversité extraordinaire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'organismes qui vivent autour des coraux et qui ensuite, on ne sait pas trop comment, mais peuplent aussi l'océan. Donc en fait, les deux, le plancton en général dans les régions océaniques au large...
Qui joue, pour qu'on comprenne mieux, une espèce de grande prairie, hein, le plancton, hein, c'est un peu ça, quoi.
Oui, exactement, oui. C'est-à-dire qu'il y a, à la fois des algues, hein, des petites algues microscopiques qui représentent un petit peu ce que sont les plantes sur Terre, si on veut. Et puis il y a des animaux qui les mangent, et puis des un peu plus gros, et puis etc. Donc il y a toute une chaîne alimentaire qui existe dans les océans.
Que trouve-t-on dans un litre d'eau, par exemple, un litre d'eau de mer? C'est parce que c'est ça.
Dans un litre d'eau de mer, il y a des milliards d'organismes. Hein. Il y a des bactéries, des virus, des algues microscopiques, des larves de poissons.
Ouais.
Mais des milliards, c'est considérable. Donc on se rend pas compte, mais quand on prend un bain dans une soupe. Alors c'est une soupe sympathique parce qu'ils nous veulent pas de mal à nous, mais entre eux ils se mangent.
On en est uniquement au début des découvertes sur ce plancton, et après cela va nous aider à mieux comprendre aussi le climat.
Bah, le but c'est ça, c'est en fait, si vous voulez, il y a eu des études un peu sporadiques sur le plancton. Une des raisons pour lesquelles on connaît mal tout cet univers, c'est que les techniques d'observation jusqu'à présent étaient assez simples. On a fait des gros progrès dans les méthodes de génétique, de génomique, qui permettent d'identifier des organismes à grande échelle, mais aussi en microscopie. C'est-à-dire qu'on peut aussi reconnaître des organismes assez rapidement en grande quantité. Et toutes ces méthodes-là n'existaient pas il y a 5 à 10 ans.
Alors ce voyage va durer 3 ans. Là, vous allez partir, vous serez du côté du mois de mars en Inde à peu près, puis après vous allez continuer, vous allez franchir le cap, vous allez aller vraiment sur toutes les mers. Vous allez essayer de dresser un panorama assez exhaustif de la vie planctonique?
Ah oui, c'est ce qu'on va essayer de faire. On va essayer de dresser un panorama, comme vous le dites, assez exhaustif. Bon, ça ne sera pas complètement exhaustif parce que c'est impossible. Mais disons qu'on aura une idée de ce qui se passe dans les grands bassins océaniques, depuis l'océan Indien jusqu'au passage du Nord-Ouest, au nord du Canada. Quoi.
Alors vous allez vous arrêter, puis alors après vous allez faire quoi? Vous allez envoyer vos sondes, à quelle profondeur?
Voilà, c'est ça. Donc on s'arrête. En fait, le bateau va s'arrêter tous les 200 000 à peu près, hein, tous les 200-300 000. Et on va s'arrêter pendant 12 à 16 heures. Et là, on va faire plein de prélèvements, des mesures physico-chimiques. Voilà. Et donc, les données physiques sont envoyées en partie directement. Et les échantillons seront envoyés tous les mois à peu près à partir de ports spécifiques où on peut le faire le plus facilement possible. Quoi.
Éric Arsentier, sur ce fameux Tara, hein, que l'on a connu d'abord avec Jean-Louis Etienne, puis après effectivement avec la prise des glaces, 36 mètres de longueur, 10 mètres de large, vous êtes combien?
Ben là, on sera en moyenne 15 sur le bateau. Il y aura 5 scientifiques, 5 marins. Et puis des journalistes, des artistes.
Vous allez vous relayer, quoi, j'imagine.
On va se relayer. Alors un des aspects intéressants du projet aussi, c'est justement le mélange. C'est-à-dire qu'il va falloir que les journalistes, les scientifiques, les marins apprennent à vivre ensemble. C'est très intéressant de voir comment tous ces gens qui ont des origines différentes et des intérêts différents prennent beaucoup de plaisir à travailler ensemble.
Alors, vous souhaitez une bonne mer, hein. Vous avez quitté l'Orient. Là, vous allez vous retrouver sur Lisbonne dans quelques jours. Et puis, bonne suite à vous et bonne chance. Éric Arsentier, on prendra de vos nouvelles. Au revoir.
Ben, merci, au revoir.
Un petit son d'archives à présent lié à l'actualité, parce que Teddy Goldsmith, donc à la fois visionnaire et écologiste tout à fait original, nous a quittés au mois d'août. C'était un homme qui avait une fortune personnelle qu'il a mise au service d'un engagement écologiste assez original. D'abord, il souhaitait apprendre de l'expérience des peuples indigènes. Et puis, dès 1973, dans « Changer ou disparaître », qui a été un best-seller, il expliquait déjà comment les riches, la croissance, le productivisme sans limite essoraient la planète. Alors, il militait sur le terrain contre le nucléaire, d'ailleurs aujourd'hui comme Hubert Reeves, contre la déforestation, la Banque mondiale, la FAO. Il avait le souci de marier écologie et justice sociale avec une philosophie, on va dire, de sobriété qui était inspirée de l'accord des peuples premiers avec la nature. C'est un type qui était à la fois traditionnel, radical et visionnaire, je vous l'ai dit. Un extrait de Terre à Terre, de l'excellente émission de Ruth Segazi. C'était en juillet 2001 sur France Culture.
L'homme industriel existe depuis 150 ans. Donc c'est un échantillonnage minuscule et tout à fait aberrant, qui n'a rien à voir avec l'expérience de l'homme sur notre planète. Et toute notre évolution s'est faite avant que nous devenions des hommes industriels. Ça s'est fait à l'époque où nous vivions encore en tribu. L'homme normal, quand on parle d'un tigre, est un animal qui vit dans la jungle, d'accord ? Et qui est prédateur. Vous parlez d'une truite, la truite vit dans un ruisseau. N'est-ce pas ? L'homme, n'est-ce pas, est un chasseur-cueilleur, c'est pas un industriel. Si on veut comprendre, n'est-ce pas, l'homme, comment il fonctionne physiquement, psychologiquement et autres, il faut se référer à son expérience totale, pas seulement un tout petit échantillonnage. On ne le fait pas. Si on commence à parler de chasseurs et de cueilleurs dans les milieux sérieux, on se fout de vous. On vous prend pour un rigolo.
Teddy Goldsmith, je le rappelle, donc, a créé aussi une revue qui s'appelle The Ecologist, et puis la version française, donc depuis 2000, L'Écologiste, que l'on trouve toujours. Merci à Benjamin de la Gâtinais, à Guillaume Roux, aujourd'hui à la technique, à Marion Lelay, notre assistante, à Jean-Christophe Pinaza, à Xavier Pestudia, qui a réalisé l'émission, et aussi, bien sûr, le reportage d'Hubert Reeves, à Anne Gouzon, qui nourrit les sites de CO2 Mon Amour, et on se retrouve la semaine prochaine.